Nous devions recevoir Denis McShane.
Vous parlez à l'imparfait, Mickaël Fatt.
Ouais. Pourquoi on ne le reçoit pas?
Donc on a un souci avec Denis McShane qui n'est pas présent ce matin. On n'a pas pu le joindre. Bah écoutez, c'est pas grave parce que justement, je vous avais préparé une autre interview que j'ai enregistrée ce matin spécialement pour vous.
Oui, on va parler économie avec Roland Gillet, professeur de finance à la Sorbonne ainsi qu'à l'ULB.
Bonjour Roland Gillet.
Bonjour.
Sommes-nous en train de sortir de la crise? On voit les taux d'intérêt qui remontent aux États-Unis notamment. Il y a un effet Trump manifestement qui joue en plein. La croissance revient un peu en Europe. Il y a plus d'inflation, plus de création d'emplois. On le voit en Belgique. Il y a même une sorte de printemps. On voit bien que le contrôle budgétaire semble s'être passé plutôt bien. Est-ce qu'on assiste à une vraie embellie économique?
Moi, je pense qu'il faut au moins pour une fois avoir un peu de positivisme dans tout ce qu'on entend. Oui, ça va mieux. Ça va mieux, ça a mis du temps d'ailleurs, mais c'est pas étonnant. On voit aussi que, puisque vous avez parlé d'abord des États-Unis, que l'effet Trump, là, lui, est clairement bien là. Mmh. On voit d'ailleurs que, par rapport à un petit cliché, par rapport à ce qui se passe actuellement en Europe et notamment dans nos pays, en France et en Belgique, que c'est quand même très, très piquant de voir un peu Trump aujourd'hui aux affaires. En fait, c'est quelqu'un qui, par rapport à ce qu'on dit souvent, les hommes politiques disent des choses, ils ne le font pas à chaque fois. Lui, il semblait au début que ce qu'il disait était excessif et même certaines mesures sont inquiétantes. Mais jusqu'à présent, même s'il a corrigé le tir dans la manière de le dire, bah, il va finir par faire ce que il avait dit, et ce qui est étonnant, puisqu'il y a quand même des choses extrêmes. Et de l'autre côté, ce qui est également un élément qui, moi, me surprend également en politique avec les affaires qu'on connaît dans différents endroits, et notamment en Belgique et en France, c'est qu'il se permet de dire, et en plus, ça ne coûtera rien au gouvernement, puisque je ne vais même pas utiliser mon avion présidentiel, j'en ai un qui va plus vite, et pour le reste, je ne veux même pas être payé une grosse partie de mon équipe. Donc, je trouve assez amusant dans le contexte actuel que dans la plus grande économie du monde, on ait mis un homme de ce type-là aux affaires, sachant qu'il y a quand même des grosses équipes autour de lui, et que certains effets d'annonce, et là je viens sur votre question, la reprise, vont dans le bon sens pour en tous les cas une Amérique qui gagne, puisqu'il sait, parmi les mesures importantes qu'il vient de prendre, qu'il y a énormément d'argent de sociétés américaines qui sont parquées à travers le monde.
Ouais. Simplement, il va essayer de les rapatrier.
Exactement, parce et ces sociétés le font sciemment, c'est pour ne pas être imposées aux États-Unis, elles préfèrent avoir leur trésor de guerre dans certains autres pays. Et là, avec un gros geste, qui va finalement, au bout du compte, peut-être pas lui coûter tant que ça, il essaye de les rapatrier en diminuant drastiquement le taux d'imposition
là-dessus. Il a un peu remis l'autorité politique au milieu du capitalisme américain.
Tout à fait. Ouais. Et en plus, vous avez vu que entre la manière dont parfois il fait des tweets où il envoie...
Oui, tout évidemment, la manière est discutable.
La manière est discutable et certains principes aussi. Dernier élément, je dirais, sur Trump, et là, c'est une surprise pour moi en tous les cas, c'est qu'il était face quand même à une femme, Hillary Clinton, lors des élections présidentielles. Et s'il est quand même élu aujourd'hui, vu ce qui sort des sondages, non pas avant mais après les élections sur les femmes qui ont voté, il y a quand même 48% de femmes, quoi qu'il ait dit sur elles, qui ont voté pour lui. Donc c'est vraiment
un personnage incompréhensible d'ailleurs.
Totalement.
Oui. Alors qu'est-ce qui marche, pour revenir à l'économie pure, qu'est-ce qui marche dans l'effet Trump? C'est ces annonces d'investissement qui soutiennent la bourse. On a vu aussi un projet de budget où il coupait dans les budgets de la santé et d'autres budgets sociaux aux États-Unis. Donc c'est un programme aussi très libéral là-dessus. C'est ça qui plaît au marché?
Je pense que non. Ce serait trop facile de dire ça. Je pense qu'il y a toute une série d'éléments sur le côté économique qui avait déjà été mis en place, non seulement par la Banque Centrale Américaine et avant la Banque Centrale Européenne pour relancer l'activité. Il faut dire aussi que c'est un peu normal que ce soit les Américains qui aient tapé le plus fort pour la reprise, puisque c'est eux, en 2008, qui avaient déclenché les catastrophes, et c'est eux qui, finalement, au bout du compte, même s'ils avaient répercuté une partie sur le reste du monde, ont payé le plus. Et donc, il fallait vraiment quelque chose de très fort. Ils l'ont fait. Et le Yes Weekend de Obama, sur certains plans, pas sur le côté Obamacare, mais sur le côté économique, avait déjà quand même obtenu des effets. On voyait bien d'ailleurs que les États-Unis étaient repartis beaucoup plus vite que les autres zones du monde, en tous les cas comme l'Europe. Mais aujourd'hui, ce que je crois qui est très fort, c'est de voir qu'aux États-Unis, la politique qui a été mise en place avant par Obama, plus certains éléments de soutien, en dehors des idées d'une Amérique forte, qui est le slogan habituel, commence bien entendu à donner des effets. Et on voit que la Banque centrale américaine ne veut pas tuer la reprise, mais clairement, elle est attentive parce qu'elle voit bien que ça commence quand même à faire des effets très positifs. Maintenant,
et donc, elle relève ses taux. Voit qu'en Europe, c'est le mouvement aussi. Hein. Ceux qui ont dû contracter un emprunt hypothécaire depuis quelques mois le voient, les taux remontent et remontent même beaucoup. Hein.
Oui, mais ils viennent aussi très bas. Alors, vous savez, le relatif par rapport à un niveau très bas, on est vite très haut. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que l'inflation, même si c'est pas quand même encore une inflation dérangeante, loin de là, commence également à avoir des effets. Et donc, il est assez légitime que les taux d'intérêt remonte. Par contre, en Europe, pour être différencié, on voit bien qu'on n'a pas encore les effets que connaissent les États-Unis, d'autres zones du monde comme l'Asie, et on est encore dans une position, je trouve, en Europe, où le chacun pour soi, même si au départ c'est du tous pour un, pose des problèmes, et pose des problèmes surtout dans des années où l'agenda électoral a déjà réservé certaines surprises, notamment avec le Brexit, notamment avec Renzi en Italie, et notamment, c'est passé tout près quand même si le résultat était vraiment dans l'autre sens, aux Pays-Bas, et puis vient surtout les deux plus grands pays de la zone euro, qui eux aussi vont avoir des élections. Donc tout ça, à mon avis, laisse à croire que la Banque Centrale Européenne ira vraiment très, 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 très doucement si elle doit relever ses taux, parce qu'elle voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même scénario qu'aux États-Unis.
Ouais. Et on se dit, quand on voit ces éléments de reprise, même si vous êtes prudent, vous dites il y aura de la prudence dans ce que va faire la Banque Centrale Européenne, qu'on est quand même à la fin d'une sorte de cycle monétaire où pendant, je ne sais pas moi, 7 ou 8 ans, on a quasiment fabriqué du billet, hein, en Europe comme aux États-Unis.
C'est clair, mais de l'autre côté, en dehors d'avoir fait des crédits, parce que vous savez, ce qui m'a toujours amusé, c'est qu'on est tous d'accord qu'il y avait du surendettement un peu partout, et puis pour ne plus employer le terme endettement, on a dit il faut faire du crédit à l'économie réelle. Vous doutez bien que du crédit à l'économie réel sur de l'endettement ou du surendettement, ça fait encore un peu plus d'endettement. Plus vous mettez évidemment les taux d'intérêt à des niveaux bas, ce que je comprends très bien, pour relancer la machine économique, plus aussi vous créez un paquet de dettes. Et donc, il est temps maintenant que la reprise vienne, parce que vous doutez que quand vous mettez de la dette dans l'économie, il faut aussi payer les intérêts sur ces dettes, même s'ils sont faibles. Et vous avez poussé quand même les gens à des leviers pourquoi ? Pour être dans un contexte de croissance. Donc, il y a intérêt vraiment à ce que cette croissance revienne.
La Belgique est à 107% d'endettement. Ça veut dire que si les taux remontent, le coût de la dette va augmenter aussi pour l'État. Est-ce qu'on risque de se retrouver avec des problèmes budgétaires qui, depuis 2-3 ans, n'existaient pas trop? Le coût de la dette va redevenir un gros problème pour un tas de pays en Europe. Peut-être, on n'est peut-être pas les plus exposés, mais par exemple pour les pays du sud de l'Europe.
Tout à fait. Et je crois que là aussi, il faut bien faire attentif, être très attentif à ce qui a souvent été dit. Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est clair que les taux d'intérêt bas, leur financement à long terme de la dette publique chaque fois qu'il y avait des échéances, où effectivement, l'agence de la dette, notamment en Belgique, a très bien fait les choses, puisqu'ils indiquent quand même ce qu'ils font, et c'est assez légitime, ils ont allongé la durée de la dette, ils ont bénéficié des taux bas, ils ont bénéficié à court terme même de taux négatifs. Donc tout ça, si les taux d'intérêt remontent, le contexte aussi par la reprise économique permettra de lever des impôts ailleurs, mais cet avantage sur le coût de la dette va diminuer progressivement. Et donc là aussi, si ça devait être brusque et duré, à ce moment-là, bien entendu que ça amputerait pour une bonne part le budget de l'État.
Allez, votre inquiétude, c'est particulièrement l'Italie. L'Italie, c'est toujours un malade avec plusieurs béquilles.
Oui, et bon, ils partent, eux, d'un niveau d'endettement qui est très élevé. Et ce qui m'effraie le plus, c'est, vous avez vu, en fin d'année dernière, et quand je dis en fin d'année dernière, c'était plus que pratiquement les carottes sont cuites, puisqu'ils avaient une échéance très forte au niveau des banques italiennes, et pas uniquement que Monte dei Paschi, toutes les banques, les grosses banques, en tout cas une bonne majorité en Italie. Et la décision est tombée dans une atmosphère politique difficile, puisque Renzi ayant perdu les élections, il y avait un gouvernement, je ne dis pas provisoire, mais on s'est interrogé si la majorité allait de nouveau être conduite. Et au dernier moment, le 22 décembre par rapport au 31 décembre, alors que ce problème est connu depuis longtemps, on a fait le contraire même de ce que le plan européen de sauvetage des banques prévoyait, c'est-à-dire un bail-in, pour faire très court. C'est on fait payer les actionnaires, on fait payer jusque certains obligataires. Non, ici, c'est de nouveau l'État italien, et heureusement, qui a dû intervenir pour mettre à peu près 6,6 milliards dans les banques italiennes, et notamment dans Monte dei Paschi. Et au total, par le mécanisme européen, on est monté jusqu'à presque 9 milliards pour sauver ce qui était encore sauvable, c'est-à-dire le fait que la Banque Centrale Européenne avait comme échéance le 31 décembre avant de dire, maintenant, il y a un vrai problème et qu'est-ce qu'on fait?
Et ce problème est toujours là, en fait. Ce sauvetage n'était que temporaire.
Voilà. Ouais. Et vous voyez les ordres, c'est pour ça que j'ai cité les chiffres. Pour le moment, l'ordre de grandeur sur des créances, non pas douteuses, des créances qui sont soit en retard de paiement, soit avec déjà un léger défaut, c'est 212 milliards d'euros. Parqués dans les banques italiennes. Et si vous rajoutez vraiment toutes celles qui sont douteuses, incluant les 212 milliards, vous êtes à 400 milliards. Alors je sais qu'on cite des chiffres un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais 400 milliards, c'est le PIB de la Belgique. 400 milliards, c'est 20% du PIB italien. Alors bien entendu que toutes ces créances ne vont pas faire défaut et que ça ne sera pas la catastrophe, mais ça demande, à mon sens, un autre suivi et un autre mode d'action oui. que d'y aller à petits coups, à petits coups, à petits coups, oui. dans un pays où en 5 ans, on a changé 5 fois de gouvernement.
Oui. Mais donc la zone euro et l'Europe, en cet anniversaire du traité de Rome d'ailleurs, n'en a pas fini avec ces questionnements quasiment existentiels sur la dette des États. Hein,
tout
Roland
à fait.
Gilet. On va encore en entendre parler en 2017.
J'ai bien l'impression. Et surtout, oui, c'est ça qui est quand même dommage, c'est qu'il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait, parce que jeter le bébé avec l'eau du bain n'est certainement pas une bonne chose, parce qu'au niveau des mécanismes de contrôle des banques, du mécanisme européen, là au moins on en a mis un en place, les éléments sont là. D'ailleurs, c'est ce qui a fait plier quand même par un échéancier strict le gouvernement italien, c'est que le 31 décembre, la Banque Centrale Européenne était là pour dire « Attendez, maintenant c'est terminé, je vous ai donné une échéance
oui. ».
Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites, mais le mécanisme européen, la gouvernance européenne et la volonté d'agir ensemble sur des vrais problèmes, à mon avis, là on est encore effectivement loin du compte.
La reprise est fragile dans la zone euro. On va encore beaucoup parler de la dette des États dans les mois qui viennent. Déclaration de notre invité ce matin, Roland Gilet, professeur de finance à la Sorbonne ainsi qu'à l'ULB Solvay. Vous